On est au-dessus d'un nouveau plan de métro de Paris. C'est quoi vos stations de vie, Volmir Cordero, où vous travaillez, où vous habitez?
De vie, c'est plutôt à Philistin. Puis je travaille pas mal à H. J'aime bien prendre des bières à Caméra. Et sinon, j'étudie souvent à Céladon d'Hiver. Et j'y visite ma super copine Ours en Trans.
Ours en Trans sur la ligne 13. Ligne 13 qui va de Cotillon et Frisely à Lanière-d'Ozier. Alice Roland.
Alors moi je jouerai prochainement dans un spectacle qui aura lieu à Courseautrot. Ce qui m'arrange pas tellement parce que c'est à l'autre bout de Paris par rapport à chez moi. J'habite plutôt vers Portelala et en ce moment la station Dentelle est fermée, hélas, sur la ligne 11.
Et alors là, si vous aviez le choix d'une station, vous choisiriez laquelle, Volmir Cordero?
Aussi. C'est la ligne 1 qui connecte avec la 14. J'aime bien aussi.
Et vous, Alice Roland?
Je dirais Passé Plat, c'est là que nous sommes actuellement, sur la ligne 6, enfin pas loin de la ligne 6. J'aime beaucoup la broderie.
Parce qu'au-dessus du plan rêvé, on a le vrai plan de métro de Paris. Alice Roland, il vous a servi à quoi, le vrai plan?
À rêver, justement. Souvent dans le métro, à l'heure où il y a un peu trop de monde pour pouvoir ouvrir un livre ou un journal. Et ça a occupé de bonnes heures de métro.
Et comment ils sont arrivés, ces nouveaux noms de stations?
Par rêverie, oui. Je me demandais comment on pourrait mieux appeler cette station. J'essayais d'être le plus honnête possible, mais ça donne des résultats un peu bizarres.
Stalingrad est devenu
Stalingard.
Et Château de Vincennes?
Un château de Vincennes est devenu Vinceau de Châtaigne. Je crois que c'est la première contrepétrie que j'ai faite de ma vie.
C'est vrai qu'on parle toujours de la ville comme d'un être humain. Du reste, on parle souvent d'une ville comme d'une femme qu'on aime, qui est désirable, qui nous fait du charme, etc. Bon, donc il y a là effectivement une parenté entre la ville et puis le corps.
Il est 23h et nous sommes faits de mots. Notre corps est fait de mots. Volmir Cordero danse et écrit. Il invente une langue pour raconter son corps et sa façon de nous regarder. Son premier solo s'appelle Ciel parce que le ciel est un espace pour tous et qu'il remet au centre ceux qui en ont été écartés. Plus tard, il redescend sur Terre et sa création s'appelle Rue, l'espace où les corps se croisent, où certains sont aussi laissés. Il s'intéresse à la marge, aux marges. Son long corps se métamorphose pour laisser passer toutes ses vies.
ces corps impleurables, comme l'écrit Judith Butler, dont on se soucie peu. Il remet de l'importance, il danse et il écrit. Son livre s'appelle « Ex corpo », comme un long poème témoin de sa propre recherche pour pouvoir dire, par exemple, « C'est l'homme qui pleut » sur scène qui se présente face à vous, pour mettre des mots sur des pensées nouvelles. Dans son début manifeste, il écrit « Oui pour dire oui à certains mondes et non à d'autres ». Alice Roland en a imaginé un nouveau. Elle s'est mise à rêver au-dessus d'un plan de métro. Elle a commencé par remplacer chaque nom de station. On pourrait s'arrêter à « Arbres immenses » ou à « L'As des fêtes » ou encore à « Café serré ». Le livre s'appelle « Portulan », du nom de ses cartes nautiques en parchemin qui indiquaient les côtes et les îles. Alice Roland écrit chaque trajet, part d'un point pour arriver à un autre et s'arrête à chaque station, à chaque mot. Il y a 33 histoires différentes qui passent parfois par les mêmes arrêts. Alice Roland joue à faire bouger la langue, physiquement, ça avance, c'est un trajet. Nous sommes embarqués, nous sommes des passants. Comme Volmir Cordero aime le rappeler, des êtres passants, alors on doit soigner nos passages et les écrire pour qu'ils ne filent pas trop vite.
Casablanca, Records.
Il y aura le chorégraphe Volmir Cordero qui publie aux éditions du CND, Centre National de la Danse, Ex Corpo. Il prépare sa prochaine création, Trottoir, qui sera en septembre au Festival Actoral à Marseille et puis en décembre au CND dans le cadre du Festival d'automne. Il y aura Alice Roland, danseuse, écrivaine qui publie Portolan aux éditions POL. Et à la musique ce soir, en studio avec nous, Mauvais Oeil. Le premier EP du duo s'appelle Nuit de velours, il sort le 20 septembre prochain. Ils seront en concert cet été, le 26 juillet c'est à Cognac et le 25 août à Rock-en-Seine à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, dernier samedi soir avant l'été. Thèse Mantra, Volmir Cordero, Paris, 3 octobre 2017.
Oui à l'intensification de l'étranger, non à l'illustration des arguments, non à l'illustration de la pensée, oui à la pensée elle-même, oui à une pratique théorique comme transmutation, oui à la pensée poétique, oui à la pensée, oui au fait de penser avec d'autres penseurs, oui au fait de penser avec d'autres danseurs, oui à l'analyse, oui au non-sens, oui au pas clair. Oui pour nous découvrir mutuellement capables. Oui pour faire d'un récit faible un récit fort. Oui pour continuer à penser l'expérience. Oui au récit particulier, non au récit général. Oui à cette analyse de cette œuvre, à cette heure, ce jour-ci. Oui pour s'engager. Oui à une première de spectacle avec ce qu'on a. Oui pour croire que tout est possible. Non à l'intelligence séduisante. Oui à la révolte. Oui à l'insurrection, non au monde fini, non à l'arrogance intellectuelle, non au cynisme des artistes. Oui pour administrer le poison, oui pour dire oui à certains mondes et non à d'autres. Oui à une proposition de risque, oui à une proposition de paix. Oui pour glisser dans un monde avec plus de temps. Oui au peu, oui à l'écriture et au jeu. Oui pour faire un chez-soi, oui pour l'exploration de soi. Oui pour faire un proche. Oui à une joie non hétéronormative, oui à une pratique de l'intensité, oui pour restaurer de communauté, oui à une sensation augmentée de bonne vie, oui à une co-responsabilité de la soutenance, oui au renforcement des amitiés, oui pour rester avec le trouble, oui à une continuité féconde.
Volmir Cordero, on a entendu ce qui ouvre le livre, Ex Corpo. Et avant d'être un livre, c'était une thèse. Et puis là, voilà, c'est édité, vous l'avez repensé et c'est devenu un livre. Ça commence tout de suite par la pensée sur la langue. Et vous vous demandez en quelle langue écrire, comment on fabrique une langue. Et la réponse, c'est j'écris en français parce qu'elle contient plein d'autres langues pour moi. C'était pourquoi ? Est-ce que c'était une évidence de, d'écrire en français ?
Non, ce n'était pas du tout une évidence. Ce qui était une évidence, c'est que je devrais écrire en français pour aussi favoriser ma relation avec ma directrice et avec mes collègues. Et surtout aussi pour croire que c'était possible de plonger dans cette culture, dans ce pays, dont j'ai décidé de vivre depuis 2011. Par contre, c'était une condition que je me suis inventée, c'est-à-dire de croire que la langue était multilangue, qu'elle était capable d'associer d'autres langues, d'autres rapports à d'autres mondes, notamment le portugais, ou alors l'anglais ou l'espagnol qui m'habitent de manière plus chaotique, mais de croire que la langue, elle peut garder sa complexité et qu'on peut toujours, à travers une langue seule, une langue, on va dire, qui va unifier ma pensée, une langue qui va déterminer mon écriture, dans le cas du livre, elle peut être habitée par plusieurs mondes.
Et c'est une langue très poétique, et vous dites d'emblée, il peut y avoir des fautes de syntaxe, il peut y avoir des abus de style, c'est ça qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça fabrique comme langage ?
Ça, je pense, c'était aussi une façon de prendre position vis-à-vis du système universitaire, vis-à-vis des demandes ou des attentes que les canons universitaires demandent ou exigent des doctorants ou des chercheurs. Et comme pour moi aussi, c'était pas non plus la chose la plus aisée à faire, c'est-à-dire de rentrer dans ces systèmes, mais de garder toujours le plaisir d'être à côté ou être avec ou de proposer des négociations avec ces systèmes, la poésie m'est apparue comme une vitamine, en fait, comme un élément assez décisif et fondateur d'une chose qui allait m'autoriser à suivre ma pensée, à croire à mes intuitions, à passer par des choses beaucoup moins claires, à ne pas chercher de la clarté tout le temps, à décider de plonger dans l'obscurité aussi, de ne pas produire du sens tout le temps.
Et la langue, elle vous accompagne comment avant d'écrire là une thèse et puis un livre dans la pratique? Parce que vous parlez des cahiers de création qui sont pleins de questions. Là, on a lu ces mantras, ces oui, ces non. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup écrire pour justement fixer des questions, des choses auxquelles on a envie d'acquiescer et d'autres pas ?
Oui, pour danser, j'ai besoin de beaucoup écrire. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de lire. Ce sont des activités où je me sens toujours attaché aux mots et à la recherche de leur pouvoir d'influence sur le corps, sur l'invention d'un mouvement. Même avant la recherche, même avant la thèse, les mots étaient toujours présents. De danser avec des livres ou de danser avec des récits, c'est pour moi une vraie passion d'être lié. Et même pendant que je danse devant un public, d'imaginer quel est le récit qui m'accompagne, qui permet que la danse puisse exister, c'est comme quelque chose qui me gratte derrière l'oreille ou dans la gorge et qui a envie de sortir et qui se manifeste par le mouvement. Mais c'est comme un sous-texte, c'est comme une couche qui rend possible la danse.
Et c'est intéressant parce que vous parlez de comment vous naviguez entre ces différents points de vue et de ce que c'est un artiste-chercheur, parce qu'il y a le point de vue de l'artiste et puis il y a le point de vue de l'œuvre et parfois ça se dispute et ça se rencontre pas. Comment on négocie comme ça avec cet intérieur et cet extérieur en étant aux deux endroits?
Je pense que ça, c'était la première idée de cette notion d'ex corpo, c'est-à-dire imaginer comment, au moment où on décide de parler d'une œuvre, de parler d'un travail déjà fait, comment est-ce qu'on arrive à créer cette émancipation de la pièce à travers le mot, à travers la création de phrases et au fait que ça pose tout à fait une nouvelle inscription matérielle. Non, on passe à quelque chose qui peut être lu, relu et ça va complètement changer la réception. Donc ex corpo, c'était la première idée, c'était justement de proposer cette émancipation d'une pièce ou d'un geste qui au départ est posé sur le plateau et qui va s'incarner dans une page, dans le livre, et voir comment cette chose, elle peut tout à fait construire son autoposition, en fait. Et à partir de là, c'est-à-dire c'est comme un état de corps que je dois me proposer, que je dois conditionner, que je dois inventer au moment de l'écriture pour que je puisse mesurer si, pendant que j'écris, je suis en train d'oublier ou de m'émanciper de cette danse pour qu'elle puisse prendre sa position et me proposer des schémas nouveaux pas tout à fait attendus avant le moment de lui écrire.
Je vais lire un petit extrait de la description. Donc Ciel, c'est le premier solo. Alors, l'homme qui pleut débarque, il n'a jamais été appelé comme ça. On ne l'a jamais vu avant, on lève la tête pour le voir, On baisse les yeux, un peu gênés. On relève les yeux. Ça les fait un peu trembler, cet homme en train de se soumettre à ses propres puissances diaboliques. Il est là, jambes et bras très ouverts latéralement. Nous croyons être face à un monstre désarticulé, constitué de multiples paires d'yeux collés sur l'ensemble de sa peau. Sa peau, d'ailleurs, est d'un blanc coloré de poils roux, surexposé par une lumière travestie en soleil maudit. Nous ne sommes pas sûrs de voir un danseur, mais nous nous contentons de voir un homme. Un homme fait de si peu de choses. Grande taille, transparence déclarée, fantaisie sous les yeux, bosse dans le dos, étrange ouverture des jambes, haute contraction des muscles, tension dans les épaules, légèreté et agilité des pieds, presque toujours en demi-pointe, et pulsion sexuelle adressée au ciel. Ça, vous l'écrivez comment, quand ?
Ça, c'était la description du tout début de la pièce, c'est-à-dire quand j'ai décidé que pour faire cette thèse, c'était important de commencer par décrire mon travail. Et je me suis donné ces trois aspects, c'est-à-dire parfois décrire, parfois trouver une sorte d'analyse et puis arriver à une forme de critique en traversant plusieurs positions, c'est-à-dire parfois un récit interne, un récit de danseur, parfois l'image que j'aimerais bien offrir au public et ensuite imaginer aussi ce qui se passe dans le corps du spectateur pendant qu'il regarde la danse. Et ça, c'était le tout début de la description, on va dire même peut-être les trois premières minutes des pièces où il y a le moment de l'apparition, là, quand je débarque. Et ça apporte un peu l'organisation tonique du corps, comment j'essaie de décrire la figure qui débarque, le contexte avec une certaine lumière et les enjeux, on va dire aussi, d'imagerie. Quelles sont les imageries qui font que ce corps puisse se tenir debout?
Et vous parlez beaucoup de métamorphose et de marge, puisque la thèse, c'est sur ça, c'est sur comment on fait apparaître les marges et comment on les transforme sur scène. À quel moment ces figures-là, elles apparaissent dans la création, est-ce que c'est là tout au début, ou est-ce que justement ça émerge du fait d'être là et de commencer à s'adresser à quelqu'un?
En fait, ça m'oblige à revenir au début de la création, c'est-à-dire il faisait peut-être 4 mois que j'habitais à Angers, et donc 4 mois que j'avais déménagé de Rio à Angers. Et la première question en arrivant dans ce nouveau contexte était de savoir comment je pourrais rendre compte de certains gestes qui étaient censés disparaître lors de ces changements de pays ou lors de ce bousculement culturel, du fait que j'étais pas du tout dans la même ville, je voyais pas le même corps, les gestes avaient changé. Donc c'était un exercice d'activation de la mémoire des gestes que je voulais plus du tout me débarrasser dans ce nouveau contexte et à partir duquel je sentais une forme de menace aussi, des disparitions. Et c'est là où je me suis dit, je vais au studio et je vais commencer à élaborer encore. Et pour élaborer encore tout seul sur scène, il faut me poser la question, avec quel autre corps j'ai envie de faire communauté? Donc je me suis dit, c'est quoi les corps isolés, les corps qui sont abandonnés, les corps censés passer toute leur vie dans une forme de solitude, solitude en tout cas de codes dominants de l'organisation sociale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à des corps que je voyais souvent à Rio, ou rappeler les corps de mes parents paysans, ou penser aux prostituées de la rue de la Paz à Rio, ou penser à des gestes qui pourraient se rapprocher de certains corps que je voyais à Angers, comme ceux de mendiants ou des gens qui habitaient et qui vivent dans des conditions très précaires. C'était la première chose de commencer à organiser une certaine responsabilité du fait d'apparaître tout seul sur scène, de me dire ces corps, il apparaît, mais il apparaît pas tout seul, il est dépendant d'autres corps. Donc quels sont les autres corps que j'ai envie de me rapprocher?
Deixa eu te ver, peixe. Peixe, deixa eu te ver, peixe. Peixe, deixa eu te ver, peixe. Verde, deixa eu ver o peixe. Vi o brilho verde, peixe prata, peixe. Deixa eu te ver, peixe. Peixe, deixa eu
eu ver o peixe. Vi o brilho verde, peixe, prata, peixe.
Deixa eu te ver.
Ça dure exactement 3 minutes et 8 secondes, ce morceau, et ça clôt la pièce Ciel. Est-ce que vous pouvez nous traduire les paroles, Volmir Caldero?
Alors, laisse-moi te voir, poisson d'argent. Je pense que c'est que ça, en fait. Laisse-moi te regarder, ouais, c'est ça, en fait. C'est juste que ça répète beaucoup.
Et toi, je te regarde, laisse-moi te regarder, c'est une adresse au spectateur?
Oui, ça, cette chanson, quand elle a apparu, elle m'informait beaucoup sur une certaine forme de composition que j'avais envie de travailler, c'est-à-dire de créer un être un peu insaisissable. C'est pour ça que la pièce, elle a plein de petits épisodes, ou de petites situations qui ont du mal à s'installer longtemps. Avec cette idée d'un poisson qui saute, mais qu'on n'arrive pas à trop le voir, il replonge dans l'eau, il ressort, on a envie de voir, donc cette difficulté à fixer, en fait, ça c'était la chose la plus intéressante pour moi, d'imaginer un corps qui fuit tout le temps la fixation.
Et vous en parlez dans le livre, le moment où le livre se transforme, enfin la thèse se transforme en livre, c'est un moment un peu particulier au Brésil parce que c'est l'élection de Bolsonaro, c'est un certain retour de l'autoritarisme, tout ce qu'on sait. Qu'est-ce que ça change pour vous quand vous êtes en train d'écrire tout ça, de penser à ces figures dont vous parliez à la marche tout à l'heure?
Ouais, il a plusieurs aspects. Sans doute, le premier, ça me touche beaucoup. C'est quand même une occasion incroyable de faire ça au moment où Bolsonaro est en train de couper beaucoup, beaucoup d'investissements très importants dans l'éducation, où je vois tous les étudiants, beaucoup d'étudiants qui commencent à perdre leur bourse d'études et même d'autres formes de travail à l'université. Et juste pour parler de ce qui concerne, on va dire, l'éducation, parce qu'on ne parle même pas de culture et toute la catastrophe qu'il est en train de mettre en place, et surtout sa politique des morts ou sa volonté de déclarer et d'acter pour finir avec toutes les minorités dans le pays. Et je pense que c'est très touchant dans ce sens-là, où j'essaie de réaviver ou de remonter l'histoire des œuvres qui ont été absolument portées par cette question. Marcelo Velling, Michel Torres, Luis de Abreu sont des chorégraphes qui travaillent là-dessus et qui contribuent complètement à défaire cette idée depuis longtemps. Et c'est complètement dévastateur de savoir que cet homme de merde est là au pouvoir.
Et les trois chorégraphes que vous avez cités, vous en parlez dans le livre parce que vous repartez sur les traces d'œuvres chorégraphiques qui vous ont marqué, qui ont imprimé des choses fortes dans votre parcours. Et justement, cette pièce, La Samba du Nègre Fou, c'est la première dont vous parlez. Et vous dites que l'arrivée de Lula au pouvoir à ce moment-là avait influencé beaucoup dans le parcours de Luis de Abreu. De quelle manière? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a permis comme création?
J'ai appris lors d'un entretien avec Luis de Abreu, qui m'a dit être très... qui était vraiment quelqu'un du côté de Lula dans 2003-2004, quand Lula il arrive au pouvoir au Brésil. Et justement, il était de son côté parce qu'il savait que le gouvernement Lula était plus intéressé à mieux distribuer les légalités et commencer par le faire avec des politiques liées aux personnes racisées. Donc c'était l'invention de programmes qui allaient contribuer pour combattre le racisme et mieux distribuer les places à l'université
Et pour lui, c'était important parce que il disait un corps noir, quand il marche au Brésil, il est souvent poursuivi, il est censé être arrêté, il n'a pas de place, c'est toujours le corps de l'autre qui est en train d'identifier quelle est sa place. Et donc pour lui, cette arrivée, c'était comme une sorte de combustible qui lui a permis de composer ses solos, de construire cette pièce d'une manière à affirmer tout ce qu'il y a de stigmatisant, tout ce qu'il y a de réducteur dans la formation de regard de corps noir au Brésil.
Et ça veut dire quoi cette expression, la samba du nègre fou ?
La samba du nègre fou, c'est une expression assez courante qui veut dire quelque chose de très chaotique, très désordonné, qui s'attache à la folie. On peut arriver et dire « Ah, cette chambre, elle est comme une samba de la nègre fou, on va dire d'une situation, on va dire d'une personne, elle est complètement portée d'une forme de racisme implicite, parce que implicite est très explicite aussi, mais on va dire pendant longtemps il est explicite parce qu'on questionnait pas le rapport au langage et comment le racisme il s'est produit par le langage. Et donc Luis Dabreu, il décide de commencer par là, c'est-à-dire de commencer par parler des nègres, de fous, et puis rajouter le PD, mais pas chercher à parler avec d'autres termes, mais de toucher cette question de manière frontale.
Este é o samba do crioulo doido. A história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva e o coitado do crioulo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba.
Foi em Diamantina.
C'est quoi ce morceau, Valmir Cordero ?
Et ça, c'est la version de Serge Porto, la chanson qui s'appelle La Samba du Nègre Fou, qui a été composée en 1968 en pleine dictature et qui est donc une des sources d'inspiration de Luis Dabreu, dans ce qu'elle raconte des épisodes complètement retournés ou d'une manière complètement absurde, on va dire, il mélange de faits des personnages qui ne sont pas censés être liés à tels événements et ça crée un énorme bordel, ça crée un samba du nègre fou et ça a été un peu la source d'inspiration pour composer son solo.
Et vous parliez tout à l'heure du déplacement, du dépaysement, d'arriver en 2011 de Rio à Angers, puis maintenant à Paris, de vivre en France. Qu'est-ce que ça change dans votre écriture aujourd'hui, sur scène, et puis le fait d'avoir cette distance géographique ?
Oui, je pense que ce que ça change, c'est que du fait d'être de plus en plus là, cet écart, il commence à produire une autre forme de réflexivité qui n'est pas la même de quand je suis arrivé. C'est-à-dire qu'il y a une différence perceptive des corps ou de comment on continuait de garder cet intérêt vers des choses qui appartiennent à ma culture, vers des choses qui appartiennent à mon pays, et de commencer à réquestionner quelles sont les nouvelles marges qui m'intéressent de creuser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le défi dans ma vie, c'est de savoir exactement où est-ce que j'ai envie de vivre, si j'ai envie d'être plus là-bas, ou si j'ai envie de déménager, si j'ai envie de continuer en France. Il y a toujours une question assez problématique de savoir où est-ce que je me pose, quelle est la distance que j'ai envie de continuer d'avoir avec ma famille, ou pourquoi je n'hésite pas à créer là-bas, c'est quoi les privilèges en fait qui me font rester ici, et qu'est-ce que ça génère en termes d'inventivité dans mon corps d'artiste, dans mon corps qui j'ai envie de garder une forme de perturbation.
Mauvais Oeil, c'est un duo. Il y a Sarah et Alexis. Ils ont grandi pas loin de Paris avec des parents algériens fans du raï de Chebassni. On retrouve dans leur musique l'amour de ces rythmes-là, des mille et une nuits façon 2019 mêlés à l'électropop. Il y a le français, il y a l'arabe, Sarah chante et Alexis joue. Et le premier morceau s'appelle Mes nuits de velours. Nous sommes Mauvais Oeil en studio avec Volmir Cordero et Alice Roland. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
arrive à une autre idée, en quelque sorte, qui est, tu pars du sonnet, tu vas donc faire une sorte de saturation sur le thème même du sonnet, et ça, c'est aussi un thème. Enfin,
c'est de faire une exploration complète de la forme, d'une forme poétique,
oui.
Et ça, disons, cette idée, l'idée de le faire d'une manière assez systématique, je crois que c'est une idée qui est quand même assez liée à la pratique scientifique. Enfin, disons, c'est,
oui.
C'est une façon de procéder qu'ont beaucoup les mathématiciens.
Oui, c'est ça.
On pose des hypothèses de départ et puis on cherche comment ces hypothèses se développent,
oui.
De la manière la plus systématique possible. Comment faire un livre avec des poèmes qui ne soit pas une simple mise bout à bout, une simple juxtaposition, soit une organisation en thèmes. La façon dont, si on prend les anthologies européennes comme elles ont été faites depuis la Renaissance, ou bien on fait des poèmes pour toutes les heures du jour, de la nuit, des poèmes pour l'année, ou des poèmes qui chantent la pomme de terre, le choix de tous les poèmes sur la pomme de terre, enfin des choses comme ça, ou bien on les met en vrac, parce que ce sont des poèmes qui nous ont plu, on les met en
ordre
alphabétique, par ordre chronologique, etc. Bon, ce sont des procédés que je respecte entièrement,
oui.
Mais je voulais chercher un autre type d'organisation poétique dans laquelle le poème est une signification individuelle, mais aussi dans ses relations avec les autres poèmes.
C'était la voix de Jacques Roubaud en dialogue avec Pérec. Alice Roland, comment vous avez trouvé votre organisation poétique à vous? Comment ça a commencé cette séance de rêverie au-dessus du plan de métro parisien? On a commencé l'émission en l'observant.
Oui. Ben, en fait, ce portulan, donc ce livre et ce plan qui va avec le livre, fait partie d'un ensemble plus vaste, qui est d'ailleurs le livre que je pensais faire au départ et que j'ai apporté tel quel à mon éditeur il y a 2 ans. Et finalement, j'ai pensé, à la fois sur ses conseils et en y réfléchissant, que ce serait sûrement beaucoup plus agréable pour les gens qui le liraient de n'avoir affaire qu'au portulan, qui est déjà assez complexe en lui-même.
Qu'est-ce qui existait autour?
En fait, j'avais envie de travailler sur des choses qui se déplaceraient, enfin sur le déplacement. Et les portulans, donc, sont, enfin, les textes de portulans, les 33 histoires de portulans sont des histoires en forme de voyage. Sachant que, à chaque fois, dans ces textes, les voyages sont plutôt des voyages dans la forme que des réelles histoires de voyage, c'est-à-dire de gens qui iraient d'un endroit à un autre.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément ce que c'est portulans? Parce que ce mot, il est...
Oui, alors je ne le connaissais pas avant d'écrire ce livre. Et par une série de hasards et de renvois, de dictionnaires de synonymes, j'imagine. Je ne me souviens plus exactement comment je l'ai rencontré, mais j'ai fini par tomber dessus et par trouver que c'était assez approprié pour ces textes. Donc un portulan, c'est très vieilles cartes nautiques dont on dit qu'elles étaient assez approximatives. Ce qui me plaît a priori, puisque ça permet de mettre beaucoup de choses à l'intérieur, l'approximation.
Là, vous décrivez les trajets, donc la carte, elle est quand même très précise. Vous l'avez, elle existe avec des stations qui ont changé de nom. Et puis, on fait le trajet aller-retour, ligne 1, ligne 2, chaque ligne, en s'arrêtant. Même si, comme vous le dites, les histoires, c'est pas forcément des histoires de voyage. Il y a quand même entre chaque station des déplacements, on a l'impression qu'on avance. Qu'est-ce qu'il y a justement entre les arrêts?
Le vrai déplacement, c'est l'unique déplacement qui se passe toujours entre chaque station, c'est le déplacement de votre œil de lectrice d'une station à l'autre.
Et il n'est pas toujours le même, ce déplacement, parce qu'il y a dans la page la façon dont c'est... organisé,
ah oui,
il y a parfois
des choses avec l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, si... Bref, en fait, pour faire ce livre, il aurait fallu il aurait fallu réinventer l'objet livre pour le faire vraiment bien. C'est-à-dire que normalement, il faudrait que chaque ligne de métro, de Portulan, soit sur une grande bande de papier. Et donc on aurait d'un côté l'aller et de l'autre côté le retour. Et bien sûr, les deux ont la même longueur, puisque c'est la même ligne, dans un sens puis dans l'autre. Et donc ce qu'on retrouve là, en fait, comme si l'histoire n'était qu'une seule ligne, que le texte était une unique ligne qui avance. Et ce qu'on retrouve là dans le livre, donc, qui n'est pas fait de bandes de papier, qui est fait avec des pages, comme la plupart des livres aujourd'hui, c'est que chaque, si on prend par exemple la ligne 3 là que j'ai sous les yeux, l'aller et le retour ont la même taille. Quand j'ai rien à dire au retour, je mets des lignes blanches parce que par contre j'ai parlé à l'aller.
Parfois il y a des points aussi.
Des points.
Et parfois il y a deux colonnes, il y a deux trajets.
Ah oui, alors parfois il y a deux colonnes du fait que dans certaines lignes de métro, il y a un moment donné où la ligne se divise en deux branches.
Donc on peut choisir.
Alors voilà, il faut choisir. On est obligé.
Et il y a même les remplacements par les bus qui sont...
Oui, c'était un prétexte parce que sur la ligne 4, j'avais une idée supplémentaire après avoir fait l'aller et le retour. Et donc j'en ai fait un bus de remplacement pendant les travaux de modernisation. Et c'est d'ailleurs une ligne qui parle de modernisation.
Et on entendait Jacques Roubaud tout à l'heure parler d'organisation de la langue. Qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça vous a permis, cette organisation-là, qui au départ est une rêverie et puis ensuite qui est très contraignante?
Ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça a surtout mis au jour des questions qui pouvaient se poser. Enfin, par exemple, je me suis rendu compte que... J'avais une vision très réduite de ce que peut être la cohérence narrative. Quelque chose, j'étais encore vraiment plongée dans le passé vis-à-vis de la cohérence narrative. Alors parfois, je me suis dit, laissons tout ça de côté. Et j'ai écrit la ligne 14 de façon beaucoup plus libre ou un trajet de la ligne 11. Je me suis rendu compte comme ça plutôt de certaines limites, de choses que... Malgré la liberté que ça m'offrait, j'étais en train de certaines limites que j'étais en train de poser. Ça, c'était intéressant.
Est-ce qu'on peut lire un extrait de la ligne 3?
Oui.
Alors, Volmir Cordero a proposé d'être les stations de métro.
Oui. Deval Avril.
C'est donc un matin de printemps. Derrière les rideaux occultants, à quoi rêve la dormeuse?
Anatolie.
Deux voisins morts depuis longtemps, assis devant leur porte, jouent aux échecs sur une table basse. Le laitier passe. Il y a de la paille partout. La dormeuse va leur parler. Par l'interstice entre le rideau et le mur, qu'éclaire la lune du bout de la nuit?
Liavashi.
Drap blanc. Dormeuse étendue. Réveil. Il sonne. C'est la fin d'une nuit d'avril. Il faut la considérer comme un matin. Rien ne porte le bon nom ici. Quel est cet endroit que la dormeuse doit rejoindre par le bus de 7h46?
Champ de pétrole.
Non, vaste parking, avec des litres de pétrole dans chaque voiture, et elle les garde. Il y aurait des trafics à faire, des trafics d'essence, des trafics d'autoradio, des trafics de trafiquants. Le réveil sonne, pareillement. Le matin, il y a un enfant à déposer à l'école, un autre à la crèche. Que reste-t-il? Un
troisième et dernier.
Il va dans une autre crèche parce qu'il apprend moins vite. Il n'y avait pas de place pour lui avec les autres, ça complique tout. La dormeuse est debout, elle prépare le bol du grand. Combien?
20 graines.
20 graines, pour les enfants comme les oiseaux. C'est bon pour la croissance. Comme le lait. Ici, le laitier ne passe pas. La vie est un peu trop remplie. La dormeuse traverse le parking de la résidence, main dans la main avec le cadet, le plus petit au creux d'un bras. Elle n'a pas de voiture. Y a-t-il des plantes dans ce désert de béton?
Herbe plate.
Et dans la rue perpendiculaire,
un rang de trembles, seuls arbres du quartier. Il pourrait y avoir des amandiers publics, et à la saison des amandes, on se servirait sur les branches. Des pins pignons. À quoi sert cette corde que vous avez près de vous ? Avait-elle demandé à l'un des joueurs d'échecs dans son rêve.
Allié.
Et c'est que le début du trajet, ensuite ça... ça continue.
Oui, on va au parking ensuite.
Volmir Cordero, on a parlé tout à l'heure de votre premier solo qui s'appelait Ciel, ensuite il y a eu Inès, ensuite il y a eu Rue, et bientôt il va y avoir Trottoir. Et là, on est dans le métro, on parle de trajet, de circulation, d'espace commun. Pourquoi le trottoir, après la rue, ça vous intéresse comme espace de passage et de rencontre ?
Oui, en fait, le trottoir, c'était, ça répondait à une question que j'ai eue en début de création. C'était celle de me demander si on n'est pas en train d'oublier cet aspect assez mortel du corps, en fait, de la disparition, cet effet d'être des êtres passants, et que peut-être si on essaie de se rappeler de ces côtés passagers de la vie, peut-être qu'on allait se débarrasser un peu plus d'un certain désir de perpétuer nos existences ou de créer des schémas pour qu'on soit jamais oublié ou cette volonté de tout dominer ou d'avoir beaucoup de pouvoir. Et je me suis dit que le trottoir, c'était un endroit, un espace par excellence qui rendait hommage à cette circulation de monde, des types de gens, de cultures et de ressources qui pourraient être dansées.
Et cette fois-ci, ce sera pas un solo?
Non, cette fois-ci, ce ne sera pas en solo, ce serait avec 5 autres danseurs. Marcella, Isabelle, Chimbo, Martin et moi-même.
Et vous dédiez cette pièce qui va être créée donc en septembre à Marseille, puis en décembre au Festival d'automne, à un député qui a dû partir au Brésil.
Ouais,
pourquoi ?
Jean Willis, qui a dû partir. C'est le seul député qui avait déclaré... son homosexualité et qui avait fait des luttes incroyables pour les droits LGBT au Brésil et qui, depuis que Bolsonaro, pas depuis, mais même avant que Bolsonaro soit élu, c'est-à-dire même dans l'élaboration de sa campagne, était une des cibles les plus importantes de sa campagne. C'est-à-dire que le fait d'avoir un député homosexuel et qui soutenait des propos absolument militants et très importants qui a fait complètement changer le rapport à l'homosexualité et à l'homophobie au Brésil, ça faisait que Bolsonaro avait développé des systèmes de poursuites assez efficaces, en fait, qui a obligé ses députés à quitter le pays. Donc j'ai décidé de rendre hommage parce que c'était un choc très grand de faire le constat que le pays arrive à ces moments-là. C'est-à-dire il n'a plus de débat, il n'a plus de force démocratique et tout est basé sur la politique de la mort et de la disparition. Dès qu'il y a un impasse, dès qu'il y a un problème, il y a le désir de tuer. Et je pense que le trottoir, c'est aussi un espace où on génère beaucoup d'impasses, où les choses bloquent. Il y a des postes, il y a des flux. Et c'est ce que j'essaie de chorégraphier, c'est quelle est notre capacité à nous confronter à ces impasses. Pas que comme blocage, mais aussi comme des zones de rencontre.
On va essayer de contourner les impasses avant minuit en écoutant un nouveau morceau de Mauvais Oeil. Ils sont toujours en studio avec nous et ce morceau s'appelle Constantine.
Le monde.
Volmir Cordero, est-ce que, maintenant que la thèse est passée, maintenant que le livre est écrit, vous continuez à écrire en dansant, en marchant, dans la rue en... Est-ce que l'écriture est toujours active?
Oui, toujours, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très important de, pour moi de garder ces rapports aux mots. Les créations commencent par là, donc oui.
Et ça deviendra un livre?
Ah, ça je sais pas du tout en fait, non, je sais pas, il faut peut-être, moi je prends beaucoup de temps, au départ c'était vraiment essayer de, déjà de dealer avec cette notion de thèse, et là pour l'instant c'est une écriture plus intime, on va dire, plus pour moi, comme j'ai commencé au début, de quand je commençais à écrire sur Ciel, il avait ce rapport aussi de préparer presque un échauffement, quelque chose que je pourrais lire avant de danser pour m'échauffer ou pour activer un certain imaginaire. Et là, comme j'ai pas mal de choses écrites sur Inès et sur Rue aussi, j'ai envie de
les continuer. Les deux autres solos.
Hein?
Les deux autres solos, Inès et Rue.
Pour l'instant, je pense, ouais. Ouais.
Parce que ce qu'on disait au départ quand on parlait de la langue, c'est que ça a quand même activé une langue très poétique. Parce que là, on parle de thèse et ça peut faire un peu peur, mais le livre ex corpo, il est très... C'est comme lire un long poème.
Oui, en fait, l'idée de la thèse création, donc liée au département danse à Paris 8, c'était pour moi de jouer avec cette idée de création à l'intérieur de l'écriture. C'est-à-dire que même dans la thèse, on pourrait parler, comme disait Julie Perrin dans le jury, elle disait finalement la thèse, elle reste très classique dans le sens où il y a encore plus d'œuvres qui sont rassemblées par une notion, celle de la marginalité. Après, ce que j'essayais de creuser, c'est-à-dire c'était de... malgré cette prothèse universitaire, pouvoir à travers les mots découvrir un autre rapport à la pensée. C'était pour le coup un rapport beaucoup plus poétique qu'il est censé avoir quand on est en thèse. Donc pour moi c'était mon choix en fait de jouer avec le délire de la pensée à travers la poésie.
Alice Roland, votre rapport poétique au réel, est-ce qu'il a débordé Portulan et la carte du métro que vous avez re... Est-ce que maintenant, quand vous voyagez, vous écrivez? Est-ce qu'il y a des noms que vous remplacez? Est-ce que...
Je voyage beaucoup et j'écris le plus possible. Mais non, enfin, ça n'a pas... Mais par contre, c'est quelque chose que je sais, c'était un jeu que j'ai déjà fait quand j'étais petite. J'ai des souvenirs d'avoir pris le RER et d'avoir rebaptisé Arcueil Cachan, Cercueil Cahotan avec une amie, enfin... Et c'est drôle, j'ai rencontré deux ou trois personnes qui m'ont dit avoir fait ça aussi, alors ça doit être un truc qu'on peut faire. Mais c'est comme si ça m'avait vaccinée, maintenant je suis immunisée contre les changements de nom.
On sera parti des corps et de la ville pour y poser un nouveau monde et des nouveaux mots. Volmir Cordero, son livre s'appelle Ex Corpo. On le trouve aux éditions du CND, Centre National de la Danse, en attendant la création du spectacle Trottoir, à la rentrée au Festival Actoral et au Festival d'Automne à Pantin. Alice Roland, son nouveau livre s'appelle Portulan, c'est aux éditions POL. Mauvais œil, le P sort le 20 septembre, il s'appelle Nuit de velours. Il sera en concert cet été, le 25 août, à Rock en Seine à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Stéphane Desmonts et Dofar Guéride. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche. C'est déjà l'été et c'est l'heure des nuits. À bientôt, à la rentrée.